C'est parti pour un nouvel épisode de Café Crème. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Nicolas Villas, bonjour.
Bonjour, café qu'on attend, oui.
Ouais, c'est exactement ça, parce que je parlais très bien tchécoslovaque, donc c'était parfait. Évidemment, t'es avec nous pour parler de ce chef-d'œuvre absolu qui était la victoire du Portugal, mais surtout des conséquences que ça va avoir pour la génération actuelle, avec ce succès face à l'équipe des Fidji, surprise, qui était l'un des gros événements de la Coupe du Monde. Nicolas, quel accueil on a réservé à cette équipe des loups portugais pour leur retour au pays?
Ah bah, rockstar. C'est-à-dire accueil à l'aéroport, ils étaient des centaines à les accueillir, ce qui est quand même
c'est fou.
C'est fou pour du rugby. C'est-à-dire qu'il y a franchement, au début de la Coupe du Monde, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas cru du tout. Déjà, j'aurais pas cru qu'ils fassent un match nul
contre la Géorgie 18-18.
Voilà, j'aurais pas cru qu'ils tapent les Fidji le dernier match, ce qui était quand même assez étonnant finalement. On va dire que l'objectif pour le Portugal, qui avait une présence en Coupe du Monde jusque-là en 2007, qui était déjà en France, où ils avaient pris plus de 100 matchs, plus de 100 points à chaque match, c'était de pas être ridicule. Et là, tu repars avec une victoire historique et un match nul qui était déjà historique et qui en plus finalement avait laissé un petit goût amer là, jusqu'à ce qu'il disait le sélectionneur, où il disait
parce qu'ils sont passés tout près de la victoire. On le rappelle, la pénalité de la victoire seconde. À la dernière seconde qui passe à côté
et qui passe juste à côté. Et finalement, là, Gisquet l'avait dit après ce match, on est content des victoires morales, à savoir ok, c'est bien, on joue bien, tout le monde nous loue notre jeu d'évitement qui dénote un petit peu avec ce qu'on peut voir dans pas mal de sélections, mais à un moment on veut une victoire tout court et ils l'ont eu le match suivant face aux Fidji. Donc ouais, il y a eu un vrai effet, on va dire un vrai enthousiasme après cette victoire, mais ça soulève aussi un certain nombre de questions et de problématiques.
C'est celle la première, la plus importante presque, c'est l'avenir, parce qu'aujourd'hui la Coupe du Monde est malheureusement derrière eux, ils ne se sont pas qualifiés pour les phases finales, ça aurait été un miracle absolu qui n'a pas eu lieu. Néanmoins, cette génération est un peu sur la fin. Il y a beaucoup de cadres portugais qui vont quitter la sélection. Et on se pose la question, est-ce que c'est un sport qui est amené à survivre à cette simple Coupe du Monde?
Alors déjà, première chose, pour répondre déjà à la première partie de ta question, effectivement, il y a pas mal de cadres qui s'en vont. Je pense à Chico Fernandez, à Marquez, je pense à Tadjer, bien entendu, qui sont des joueurs qui prennent leur retraite après cette Coupe du Monde. Je lisais un papier ce matin là-dessus, il disait que déjà la première mission du nouveau sélectionneur, qui est aussi un Français, ça va être justement de repenser la première ligne. Donc ce qui est quand même déjà un sacré taf.
Oui, bien sûr. Et puis c'est une clé du rugby, on le sait.
Donc ce qui déjà va être un sacré taf. Et après, derrière ça, alors ce qui est très intéressant, et moi, alors pour le coup, moi qui suis vraiment le foot portugais, et finalement quand tu suis le foot, tu suis les autres sports, parce que tu t'es amené à lire les trois quotidiens sportifs, puisqu'il y en a trois au Portugal, qui font entre 50 et 70 pages.
Et qui font entre 90 et 95% de foot.
Voilà. Et au final, j'ai constaté pendant la Coupe du Monde, et notamment après le match contre la Géorgie, mais déjà en amont, ils sentaient que dans le jeu, il se passait un truc, c'est-à-dire déjà le premier match contre les Gallois, c'est tout sauf ridicule. Donc il se passe déjà un petit truc. Ils commençaient à en parler de façon un peu plus poussée. Et là, il y a pas mal de choses qui viennent. J'avais lu un très bon édito qui disait « C'est génial, le Portugal a fait un super mondial. » Et le titre du papier, c'est « Le Portugal a enfanté à créer un monstre. » C'est-à-dire que cette victoire qui n'était pas attendue, elle soulève un certain nombre de questions qui est celle du développement du rugby au Portugal. Mais comment on fait? Alors, c'est-à-dire qu'il y a, première problématique, le championnat n'est pas professionnel.
Bien donc sûr, c'est beaucoup d'universités.
Voilà, c'est des clubs qui sont des émanations des facs pour la plupart. Après, il y a des clubs qui sont aussi des émanations de clubs de foot. Je pense au Benfica, à l'Académica notamment, mais qui finalement, dont la part dans le budget de ces clubs-là est dérisoire.
Hein,
voilà, c'est pas des pros au Portugal. Donc, c'est une première problématique. Et Tomás Moraes, qui était le sélectionneur du Portugal en 2007, qui en plus, alors ça aussi, je trouve c'est un symbole assez fort, qui aujourd'hui a des fonctions au Sporting, qui est un gros club de foot, qui est un club omni mais de foot, mais qui est responsable de la formation d'une façon générale, mais qui est surtout dédié au football. Donc tu as un mec du rugby qui était sélectionneur du rugby, qui gère la formation au Sporting.
Ça en dit long sur la façon dont on conçoit le sport au Portugal.
Voilà. Et tout est, si tu veux, vampirisé par le football, même si lui ne s'occupe pas que du foot, mais une grande partie de son boulot est là. Et lui-même le dit, il dit aujourd'hui, c'est bien que le Portugal ait fait ça, mais il va falloir qu'on se pose des vraies questions. Comment on va pouvoir développer le foot? J'en reviens à ta toute première question. L'accueil que les loups, les lobes ont eu au Portugal, ça a été aussi d'être reçu par le président de la République, par Marcelo Rebelo de Sousa. Ça aussi, c'est un symbole qui est fort. Et l'un des joueurs, je crois que c'est Appleton qui a dit à Marcelo,
de la sélection
il a dit maintenant, nous, ce qu'on souhaiterait, la première chose, c'est d'avoir un stade où on puisse jouer. Parce que quand ils vont aller voir, ils vont toquer à la porte des footballeurs en disant s'il vous plaît, je peux avoir votre stade. Alors, déjà, la plupart des clubs, ils n'ont pas le budget pour avoir des belles pelouses. Quand ils voient les rugbymen arriver, si tu veux, ils leur disaient
hey, 25 sangliers allez, pour, ouais, voilà. Pour tout défoncer.
Ciao, tu vois. Donc, en gros, démerdez-vous. Sachant que tu as des clubs de foot qui ont l'air déjà d'avoir des pelouses et des stades, c'est une vraie problématique. Et le souci que tu as derrière tout ça, c'est aussi la réalité de la plupart des clubs portugais, c'est-à-dire qu'on parle de Benfica, Porto, Sporting, voire Braga, qui sont des gros clubs, mais l'immense majorité des clubs de football portugais,
c'est de la survie.
Voilà, ils peinent à boucler leur budget. Donc imagine les autres sports, donc imagine le rugby. Donc si tu veux, il y a un effet de ruissellement finalement par rapport à ça, mais ce qui est cool, c'est que grâce à la sélection du rugby, C'est le sport portugais qui doit aujourd'hui se tourner vers les institutions.
Ça met en lumière les défauts et les problèmes qu'il peut y avoir au Portugal, et notamment pour toutes les cellules omnisports. Vous avez des... Enfin, vous, je dis vous, comme si tu faisais partie de la fédération internationale. Oui.
C'est moi,
vous,
le président.
Portugal, qui l'identifie à mort. Mais au Portugal, il y a quand même des sportifs omnisports qui arrivent à briller, mais qui sont pour la plupart dans la galère. Ce sont des smicards, entre guillemets.
Bah, t'as Pimenta, qui est l'un des athlètes les plus titrés des dernières années en canoë.
Aujourd'hui, il fait de la survie totale. Quoi.
C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que lui, il a interpellé les pouvoirs publics en disant hey, « Eh les gars, moi, je ramène des médailles à chaque compète. Moi, je n'ai pas le droit aux félicitations officielles. Ouais. Je n'ai pas le droit d'avoir un petit budget. Il faut que je galère pour avoir des sponsors. Il faut que j'ai un taf à côté. Et à côté de ça, je ramène quand même des médailles. Donc, OK, c'est bien le football, mais pensez aussi un petit peu à nous. » Et si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même le football, et le problème, il est là, c'est qu'on voit tellement le football via le prisme des 3-4 grands clubs au Portugal qu'on en oublie ce qui se passe à côté. Mmh. Et que tu as des clubs historiques qui crèvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as un symbole très fort là-dedans. Le Portugal, par exemple, je reviens à l'exemple du foot, c'est le dernier pays d'Europe où les droits télé ne sont pas mutualisés. C'est-à-dire que chaque club négocie individuellement ses droits télé. Conséquence, 90% des droits télé appartiennent à 4 clubs.
Bien sûr, voilà.
Et les autres, ils n'ont qu'à crever la bouche ouverte et tout le monde s'en fout finalement.
Ils sont contents s'ils sont diffusés quand ils jouent contre Porto.
Et on en revient, et donc imagine ce qu'il en est pour le rugby.
Bien sûr. Dernière question par rapport, et c'est une question toute bête, mais par rapport à l'identité de cette sélection, on sait que c'est une sélection assez cosmopolite parce que la plupart des joueurs majeurs notamment sont français, nés en France. Il y en a même qui ne parlent pas portugais. Quel est le regard de la presse et du Portugal de manière un peu générale sur cette équipe qui, on le sait, hein, le Portugal a souvent une vision un peu fière de son pays, presque nationaliste, sans vouloir utiliser de grands mots. Comment ça se passe avec cette équipe-là qui est composée quasiment pour aller un tiers, voire la moitié, de joueurs qui ne sont pas nés au Portugal?
Alors, il y a, si tu veux, bon, le Portugal est historiquement un pays d'émigration. Donc, c'est un pays déjà qui est nourri dans beaucoup de sports. On peut en revenir au football. Rafael Guerreiro, Anthony Lopez, même
ils
Adrien.
Ils ont grandi sportivement ailleurs.
Ils sont même nés en France. Ils ont été formés en France. Adrien Silva est né en France, même s'il a été formé au Portugal. Tu as quand même un certain nombre d'exemples qui existent déjà. Et c'est vrai que, si tu veux, le Portugal est un pays qui est décomplexé par rapport à ça. Il y a eu des vagues d'émigration successives et historiques au cours des années pour des raisons économiques, politiques aussi pour la première fois, qui permet d'expliquer ça. Après, moi, je rebondis sur ce que tu dis pour dire autre chose. C'est que moi, qui ai vibré comme je ne l'imaginais même pas il y a encore un mois derrière cette sélection portugaise de rugby, qui suis pas un grand suiveur de ce sport-là, mais qui ai kiffé d'autres matchs aussi. Moi, j'ai vraiment kiffé ce mondial, d'une façon générale. Moi, j'ai envie de dire merci au rugby français. Alors, pour deux raisons. Merci Patrice Lagisquet pour le taf, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réussi à insuffler au sein de cette sélection. Maintenant, c'est ce que ses adjoints, les joueurs ont dit, les suiveurs du rugby ont dit, le président de la Fédé portugaise de rugby a dit, il faut profiter de cet élan pour construire derrière.
Bien sûr,
et pas se retomber le souffler.
C'est le plus gros défi de toute façon.
Et merci au rugby français pour avoir formé des mecs, même s'ils jouent en Fédéral 1, s'ils jouent en Pro D2 ou quoi, d'avoir alimenté cette sélection aussi. Si tu veux, il n'y a pas de complexe à avoir, puisque de toute façon, le rugby portugais n'est pas professionnalisé. Donc, tu es bien obligé d'aller piocher ailleurs. Et puis, moi, je pense que c'est aussi ça ce qui fait la force de ces Coupes du Monde. On va dire, ouais, mais tu te rends compte, aujourd'hui, le rugby, il y a encore trop d'écart entre les nations. Ouais, ok, mais tu vois, le fait d'avoir un Portugal qui se qualifie à la Coupe du Monde de rugby, tu as des mecs qui sont en Pro D2 ou en Fédéral 1 qui n'auraient jamais eu leur chance, en équipe nationale française, dans le 15 de France, qui vont jouer.
C'est le cas de Vincent Pinto, qui a été champion du monde des moins de 20.
Et qui a fait un mondial fabuleux.
Et qui a été titulaire pour le premier match, qui a été remplaçant pour le dernier décisif. C'est le cas pour des tas de joueurs portugais qui ont pu s'imposer aux yeux du monde dans cette Coupe du Monde.
Mais tu vois, on en vient aussi à un débat qui a existé, qui existe encore au sein du foot français même. Tu vois, la DTN, pendant un certain moment, s'est posé des questions de façon très nauséabonde, notamment la question des quotas. Nous, on est là pour former des joueurs qui jouent pour d'autres nations? Écoutez, soyez heureux, soyez fiers de former des joueurs qui peuvent porter le maillot d'autres équipes nationales. C'est ce qu'a fait le rugby, c'est ce que fait le foot, c'est ce que font tous les sports. Et les Portugais, la formation, et j'en reviens au foot, ils ont formé des joueurs pour l'Angola qu'ils ont affronté en Coupe du Monde en 2010. Mais ça leur a pas posé de problème, ils étaient même fiers de ça, tu vois.
Bien sûr. Donc il y a pas de problème d'identité,
non.
Tant mieux.
Non, au contraire, c'est un pays d'émigration encore une fois, c'est un pays le Portugal est un pays qui a une histoire coloniale qui aujourd'hui a une histoire où finalement les rapports ont tendance à s'inverser, à savoir c'est les Angolais qui investissent au Portugal, c'est les Brésiliens qui injectent de l'argent qui est très important pour l'économie et le sport également au Portugal, et aujourd'hui, il y a pas de complexe à avoir par rapport à ça justement.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Villas, qui, bon, on le rappelle, est notre spécialiste sport portugais. Avant, on disait foot portugais, maintenant, c'est omni, quoi.
Ouais,
voilà,
je pense que je vais mettre...
Le couteau suisse.
Voilà,
portugais.
Portugais, voilà.
Je sais pas comment
c'est,
on dit.
En fait, c'est un couteau...
moitié suisse.
En fait, c'est une lame avec une moustache. Voilà, simplement.
Merci beaucoup, Nicolas, pour le plus long café crème de l'histoire de café crème, mais ça valait la peine. Franchement, c'était cool. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. En attendant, bah, vous avez tout le contenu de la Coupe du Monde RMC à retrouver en digital ou en linéaire. À demain. Ciao à tous.